Les églises chrétiennes se préparent à célébrer cette année encore la fête de Pâques. Et avec les enfants qui nous font l'honneur de venir la Bible avec nous chaque mois à l'oratoire, nous allons nous aussi nous intéresser cet après-midi à Pâques en lisant dans les évangiles les récits de la mort et de la résurrection de Jésus. Il y a bien des façons de comprendre la mort de Jésus, ce que ça peut apporter à l'humanité, ce que ça peut nous apporter. On entend dire des choses assez curieuses. On entend parfois dire que Dieu aurait voulu la mort de Jésus. Quelle étrange idée! Comment est-ce que le Dieu de la vie pourrait vouloir la mort cruelle de quelqu'un? Comment un Dieu qui aime ce qui est juste pourrait prendre plaisir, pourrait vouloir l'exécution d'un homme qui a passé son temps à dire du bien, à faire du bien autour de lui? C'est impossible. Pour Dieu, la mort violente, la mort cruelle, les souffrances de n'importe quelle personne est un pur scandale, et encore plus quand il s'agit bien sûr de Jésus. Jésus nous explique la raison de sa mort prochaine dans la parabole de la vigne et des vignerons. Dieu, nous dit Jésus dans cette parabole, vous allez l'entendre, n'a jamais voulu sa mort. Ce sont les hommes qui ont voulu sa mort. C'est leur faute, à cause de leur égoïsme, à cause de l'intégrisme et de leur lutte de pouvoir. Alors c'est ce que nous allons entendre dans cette parabole que je vais vous lire, parabole de Jésus, au chapitre 21 de l'Évangile selon Matthieu, à partir du verset 33. On y voit ce que Jésus nous dit sur les dons de Dieu, et sur son propre rôle. Écoutez cette parabole, nous dit Jésus. Il y avait un maître de maison qui planta une vigne. Il l'entoura d'une clôture, il creusa un pressoir et il y bâtit une tour. Puis il confia cette vigne à des vignerons et il partit en voyage. À l'approche des vendanges, il envoya ses serviteurs vers les vignerons pour recevoir les fruits de la vigne. Les vignerons prirent ses serviteurs, ils frappèrent l'un, ils tuèrent l'autre et ils lapidèrent un troisième. Il envoya alors d'autres serviteurs en encore plus grand nombre que les premiers et les vignerons firent de la même manière. Enfin, il envoya vers eux son fils en disant « Ils respecteront mon fils ». Mais quand les vignerons virent le fils, ils se dirent entre eux « Ah, voilà, c'est lui l'héritier. Venez, tuons-le, et nous aurons l'héritage. » Et ils prirent le fils, ils le jetèrent hors de la vigne et le tuèrent. « Maintenant, dit Jésus, lorsque le maître de la vigne viendra, que fera-t-il à ces vignerons ?» Et les gens qui écoutaient Jésus lui répondirent « Il fera mourir misérablement ces misérables. » Et il donnera la vigne à d'autres vignerons qui lui donneront enfin les fruits en leur saison. Éternel, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur le sentier de toute ma vie. Et je vous propose de chanter dans le petit recueil, Louange et prière, le cantique 172, les trois strophes de ce cantique « Célébrons l'Éternel », cantique 172.
So
Ô Éternel notre Dieu, nous nous ouvrons à ton esprit afin que cette écriture ancienne devienne pour nous maintenant une source de vie et que cette vie mette dans nos cœurs, dans nos idées, puis dans nos bouches, dans nos actes, quelque chose qui donne de la force et de la lumière autour de nous. Rends-nous attentifs à ce qui est juste et bon en chacun, ouvre-nous à une espérance féconde et fais-nous toujours espérer une nouvelle étape de ta création. Jésus nous explique donc dans cette parabole de la vigne et des vignerons assassins un peu le sens de sa mort, le sens de sa venue aussi. Dieu n'a jamais voulu sa mort et ce sont les hommes qui l'ont voulu finalement. Et effectivement, historiquement, Jésus a été tué par le fanatisme religieux de l'époque et puis pour des raisons politiques. Dieu n'a évidemment jamais voulu la mort de Jésus. C'est dramatique, d'autant plus que l'histoire se répète. Ce Christ, que Dieu espère voir respecté, c'est aussi le Christ qui est en chacun de nous. Cette part de nous-mêmes qui est bonne et qui est généreuse. Cette part de nous-mêmes qui se réjouit de mettre du bonheur autour de nous, qui se réjouit de créer de la vie, de créer des bonnes choses, de mettre de l'amour dans ce monde. Eh bien, ce Christ qui est en nous, cette bonne part de nous-mêmes, Dieu ne veut pas qu'il meure, mais que cette bonne part de nous-mêmes puisse triompher, puisse convaincre l'ensemble de notre être d'avancer. Mais cette bonne part de nous-mêmes, cette part divine de notre être, a parfois bien du mal face à notre propre égoïsme, face à notre propre fanatisme. Eh bien, Dieu nous a donné Jésus, cet homme, né il y a un peu plus de 2000 ans. Il nous a donné Jésus pour nous sauver. Il espérait vraiment que cet homme serait respecté, qu'on écouterait sa parole et que l'humanité pourrait ainsi progresser. Dans notre vie, c'est la même chose. Dieu espère que nous respecterons l'enfant de Dieu qui existe dans notre prochain, et que nous respecterons l'enfant de Dieu que nous sommes par certains côtés. car c'est cette bonne part qui est notre avenir, qui est notre avenir éternel. Alors Dieu, comme dans cette parabole, nous donne tout pour que nous puissions ainsi vivre bien. C'est cela qu'explique Jésus dans cette parabole avec un langage imagé, comme bien souvent, pour que nous sachions l'interpréter et y reconnaître les dons de Dieu. Et effectivement, c'est de cela que parle Jésus avec cette parabole, car le raisin que le maître attend, ce raisin est une image très courante dans la Bible pour parler de la meilleure dimension de notre être. Cette bonne part que Dieu recueille soigneusement pour la vie éternelle. Ce n'est donc pas pour le manger ou pour le vendre que le maître cherche du raisin à la fin de cette parabole, mais c'est pour le garder précieusement, comme il garde l'être intérieur de chacun de ses enfants pour la vie éternelle. Et Dieu fait tout pour que ces fruits de vie éternelle existent avant de les recueillir. Dieu fait tout pour que cette vie germe en nous, pour que ces fruits se développent nombreux et qu'ils soient gorgés de bon jus. C'est ce qu'explique Jésus dans cette parabole. Alors dans la première partie de la parabole, nous voyons d'abord tout ce que Dieu nous donne pour que la vie éternelle puisse se développer en nous, et il nous donne donc un certain nombre d'outils qui nous sont bien utiles pour pouvoir nous développer et pour pouvoir produire du fruit. Alors reprenons cette parabole. Il y avait un homme, nous dit Jésus, maître de maison, qui planta une vigne. Il l'entoura d'une barrière, d'une clôture, y creusa un pressoir et bâtit une tour. Alors qu'est-ce que ça peut nous dire, qu'est-ce que ça peut nous faire que le maître de maison, que le maître de la vigne entoure sa vigne, entoure notre existence d'une barrière et creuse un pressoir et y construise une tour? Dans cette parabole, pourquoi est-ce que Jésus donne tant de détails? Qu'est-ce que ça veut dire pour notre vie? Alors ça veut dire que Dieu nous donne trois choses principales pour nous aider à gérer notre propre vie et que la vie éternelle puisse germer vraiment dans notre existence et que ça puisse se développer. La barrière, la clôture qui est autour de la vigne, c'est utile pour protéger la vigne de l'extérieur pour que les animaux sauvages ne viennent pas piétiner et brouter la vigne. Cette barrière protectrice représente la grâce de Dieu, la présence de Dieu. Et effectivement, dans bien des psaumes, on nous présente Dieu comme étant notre rempart et notre bouclier contre l'adversaire. Ces adversaires, nous en avons de mille sortes. Ça peut être le découragement, l'égoïsme, tout un tas de choses. Eh bien, nous avons la grâce de Dieu comme barrière pour protéger la partie sacrée, la partie divine de notre être. La tour, elle sert également à se protéger contre les ennemis, contre les agressions extérieures. Elle permet, quand on monte dans la tour, de voir les choses de plus haut et de se rendre compte à l'avance de ce qui peut survenir. Peut-être des ennemis qui viennent de loin et on a le temps de se préparer. Eh bien, la tour représente donc la foi qui permet aux croyants de s'élever par la prière, par la connaissance et par la réflexion. Le troisième outil que nous donne Dieu, d'après Jésus, dans cette parabole, c'est un pressoir. Le pressoir, ça permet de récolter le bon jus de raisin et de rejeter ce qui est sec. Et je crois que donc ce pressoir, c'est une figure de la bienveillance, une figure de l'amour. Car quand on aime quelqu'un, c'est bien ce que l'on fait. Quand on aime la vie, c'est bien ce que l'on fait, on garde le meilleur en passant sur ce qui est sec, sur ce qui n'est pas bon, comme dans un pressoir avec les raisins. Ce travail de pressoir est à faire, bien sûr, chaque jour de notre vie en plusieurs occasions, pour distinguer ce qui est bon de ce qui est mauvais, avec réalisme, mais avec bienveillance aussi. C'est utile, par exemple, quand on se demande ce que l'on doit faire. C'est utile pour mieux aimer les autres qui ne sont pas parfaits, comme nous ne sommes pas parfaits. C'est utile pour combattre l'injustice, pour la reconnaître dans la réalité. C'est utile pour se réjouir de la vie malgré les difficultés qui existent dans notre existence. C'est utile pour reconnaître nos propres défauts, mais sans se décourager, en reconnaissant aussi nos qualités. Et donc oui, Dieu nous donne trois outils fondamentaux pour arriver à cultiver notre être, notre existence. Une barrière, une clôture autour de notre dimension sacrée, une tour et un pressoir. Ce sont trois choses essentielles dans la vie, trois dons de Dieu. Mais alors comment utiliser ces trois dons ? Pour ce qui est de la barrière, c'est facile, parce que ça marche tout seul, sans qu'on ait rien à faire. Et donc cette barrière, cette clôture qui protège, qui garde notre vie, notre âme, c'est une bonne image de la grâce de Dieu. Dieu garde dans son amour chacun de ses enfants, même si on est mauvais. Jésus nous dit que Dieu garde même dans son amour ceux qui sont méchants. Dieu nous garde. Et c'est une formidable source d'espérance. Et donc, nous pouvons trouver courage et ne pas avoir peur. La barrière, elle marche sans qu'on se fatigue. Par contre, une tour, la tour qui nous est donnée, que Dieu a construite dans notre être, elle n'est utile que si l'on monte dedans. La tour, c'est comme la foi. Elle permet de prendre de la hauteur pour mieux gérer son existence et pour voir à temps aussi si un ennemi vient de loin ou s'il y a un orage de grêle qui se prépare et qui risque de détruire tout le raisin. Eh bien, par la foi, nous pouvons prendre ainsi un peu de hauteur dans notre existence, s'élever un peu au-dessus du simple point de vue matériel, cesser de se focaliser sur des petits points de détail, mais aller à l'essentiel que l'on peut reconnaître quand on voit les choses d'un peu plus haut. Et donc oui, par la foi, nous pouvons avoir un meilleur point de vue sur notre existence, avec plus d'intelligence, plus de clairvoyance. Cette tour, bien là encore, c'est Dieu lui-même, nous disent bien des psaumes. Il est notre haute retraite. Dieu donne à chacun cette possibilité de voir d'un peu plus haut la réalité de notre être, de notre vie et du monde qui nous entoure. Dieu est comme cette haute retraite, comme cette tour qui nous est donnée. Il est là, tout près de nous, mais il laisse chacun libre de monter ou de ne pas monter finalement dans sa présence. On peut choisir d'avoir la foi. On peut choisir d'entrer dans cette tour et de s'élever par la foi. C'est tout simple comme de rentrer dans une tour qui est à quelques mètres de nous et là, de monter l'escalier pas à pas et de regarder le point de vue par les fenêtres qui sont dans l'escalier. Il est utile, je crois, de monter régulièrement dans cette tour de la foi. Et il est bon aussi de savoir en redescendre. Parce que le vigneron qui resterait là-haut toute la journée, toute la semaine et toute l'année, il aurait peut-être bien surveillé sa vigne, c'est une bonne chose, mais il n'aurait quand même pas récolté grand-chose. Donc il est bon de prendre du temps dans sa vie pour, avec l'aide de Dieu, voir les choses de haut, par la prière, par la réflexion, par l'étude. Et puis il est bon de redescendre finalement ensuite pour vivre sa vie avec tout ce que l'on a pu avoir comme bonnes idées là-haut. Alors le pressoir, enfin, nous est aussi donné par Dieu, mais le pressoir, comme la tour, il ne sert à rien, il est plutôt encombrant même, si l'on ne s'en sert pas. Alors le pressoir, je vous le disais, il sert à éliminer ce qui est sec et à garder le bon jus, ce qui est nourrissant, ce qui est bon. Si l'on ne s'en sert pas, c'est un peu ennuyeux parce que nous gardons alors trop de mal dans notre cœur, dans nos actes, dans notre vision des autres, dans notre vision de notre vie, notre vision du monde. Et ce mal que nous avons gardé finalement, ça risque de tout gâcher, voire même de tout pourrir. Imaginez quelqu'un d'un peu bête à qui l'on donne une grappe de raisin bien mûr à goûter, qui n'a jamais vu du raisin, et qui commence à prendre la grappe de raisin et à mettre tout dans sa bouche, les grains et puis aussi les petits morceaux de bois qui servent à accrocher les grains. Il va recracher tout ça en se disant qu'on s'est moqué de lui et que c'est absolument immangeable. Eh bien oui, il fallait faire le tri avant. Eh bien, Dieu nous aide à faire le tri et à ne garder que ce qui est bon. Alors, il y a des gens qui, effectivement, font le tri, mais gardent que ce qui est mauvais. Alors là, c'est peut-être assez triste aussi. Eh bien, le pressoir, il nous propose de faire le tri et de garder ce qui est bon. C'est la base même de l'amour, de la bienveillance. Et ce pressoir que nous donne Dieu, eh bien, c'est la bienveillance. C'est son amour qui nous permet de pardonner, qui nous permet de voir la moindre goutte de bien qui est dans une personne qui est à nos côtés, de voir aussi tout ce qu'il y a de beau dans le monde, tout ce qu'il y a de beau, de vraiment beau dans notre vie, même s'il y a aussi des choses qui sont sèches, qui sont dures, qui sont pénibles. Et donc voilà, Dieu nous donne la vigne de notre existence et il nous donne ces trois forces, celle de sa grâce, celle de la foi qui éclaire notre regard et celle de l'amour qui nous permet de faire le tri. À nous de vivre notre vie, à nous d'utiliser ces trois outils et à nous de vivre ainsi vraiment une belle vie. Nous avons tout ce qu'il faut pour que plein de bons jus de raisin puissent être ensuite gardés par Dieu, transformés en vin pour la vie éternelle et pour la joie de tous. Mais les dons de Dieu ne s'arrêtent pas finalement à cette vie qu'il nous donne et à ces trois outils merveilleux qu'il nous donne pour que nous puissions travailler notre existence et y récolter de la vie éternelle. Dieu assure, si je puis dire, le service après-vente, car, bien sûr, nous ne sommes pas parfaits. Nous ne sommes pas Jésus-Christ. Ou plutôt, nous ne sommes pas encore totalement Jésus-Christ. Nous sommes aussi, par certains côtés, stupides et arrogants, comme les méchants vignerons de cette parabole que nous raconte Jésus. Et cette suite-là est également bien intéressante, et bien rassurante, je trouve. Que fait Dieu face à ces vignerons stupides et méchants? Eh bien, il redouble de bonne volonté pour nous. C'est à cela que servent les prophètes, ces hommes et ces femmes de bonne volonté qu'il nous envoie sans cesse, ces vrais amis qui ont le courage de nous dire quand nous faisons des bêtises, qui ont le courage de nous rappeler la volonté de Dieu quand nous commettons l'injustice ou quand nous faisons n'importe quoi. Et puis nous avons le Christ, c'est le fils de cette parabole. Nous avons Jésus qui nous dit vraiment qui est Dieu et qui nous dit que la vraie vie consiste à aimer comme Dieu nous aime. Nous avons aussi notre propre conscience qui est un peu ce fils qui est dans notre cœur au plus profond de nous-mêmes, notre bonne conscience quand elle est éclairée par le Saint-Esprit. Eh bien, l'espérance de Dieu, c'est que Jésus soit respecté. L'espérance de Dieu, c'est que les prophètes soient écoutés. L'espérance de Dieu, c'est que le Christ, qui est déjà au plus profond de notre être, qui est notre bon côté finalement, notre côté divin, soit respecté en nous. Alors le Christ de l'histoire, il est un peu respecté quand même, même s'il a été exécuté. Il est un peu reconnu, respecté quand même, puisque 2000 ans après, nous sommes ici réunis en son nom pour réfléchir à ce qu'il a dit et écouter sa parole. Mais le monde le rejette et le tue également, bien sûr, et pas qu'un peu, hélas. L'espérance de Dieu, c'est que notre bon côté, notre côté enfant de Dieu, notre côté divin, soit respecté par les autres dimensions de notre être. Car alors nos projets, nos actes, notre espérance ne sont plus gouvernés par l'égoïsme, mais par un véritable amour qui produit des fruits de vie éternelle. Mais comme le dit Jésus ici, c'est incroyable avec quelle facilité, quelle rapidité le vigneron se prend pour le propriétaire de la vigne. C'est incroyable comme notre ventre, notre sexe ou notre tête peut prendre le pouvoir sur nous pour notre ruine, pour la ruine, la souffrance de ceux qui nous entourent, alors que nous pourrions vivre bien en n'oubliant pas que nous sommes en fait que les gérants de notre propre existence, que nous ne sommes que les gérants de notre argent, de notre temps et de notre vie. Et effectivement, tôt ou tard, comme dans la fin de cette parabole, nous devrons quitter ce monde, et alors il ne restera plus que l'amour, en fait. C'est lui qui est l'héritier, c'est cette dimension de grâce, cette dimension de foi, cette dimension d'amour qui caractérise Dieu, le seul éternel. C'est cela qui reste à la fin, et c'est cela le véritable propriétaire de la vigne. Et en cela, je crois que le vieillissement de nos corps peut être quelque chose d'utile. Nous sommes bien obligés de constater ce vieillissement dans nos proches et puis aussi en nous-mêmes, en fait, souvent. Et cela peut être utile si cette usure nous rappelle que l'essentiel est cet être intérieur, cet être spirituel, cet être divin qui nous habite et qui se renouvelle de jour en jour, comme le dit l'apôtre Paul. C'est cet être spirituel, divin, intérieur, qui existe en chaque être humain. Cet être qui peut même grandir, porter du fruit et donner la vie par la grâce de Dieu. Que Dieu nous soit ainsi en aide et nous donne la vie. Amen.